Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion lorsque nous enregistrons cette émission avec Charles.
Comme toujours,
nous sommes le mardi 2 avril 2024 et nous allons parler d'un sujet de fond qui est la dépopulation mondiale.
Et c'est pas un poisson d'avril,
on est le 2 avril donc là c'est déjà un peu tard et puis au moment où on diffusera la vidéo ce sera carrément passé de mode donc on serait vraiment pas dans les temps. La dépopulation c'est un sujet de fond assez important, on en parle déjà depuis que je suis à l'école, on me dit que voilà, déjà la population mondiale va atteindre un certain nombre de milliards d'habitants, alors 10 milliards, 11 milliards, certains disaient même 12 milliards.
On s'arrêtera plutôt à 8, je crois. Mais enfin...
Voilà, et que à un certain horizon, peut-être à horizon 2100, la population va décroître. Sauf que ça, c'était il y a plus de 10 ans qu'on disait ça. Mmh. Et aujourd'hui, plus des études différentes essayent d'estimer de manière de plus en plus précise, puisqu'on se rapproche de l'échéance et qu'on a peut-être des outils un peu plus précis pour estimer donc comment cette population mondiale va évoluer, et plus en fait on se rend compte que on va atteindre un maximum en fait pas du tout à 11 milliards, peut-être plus entre 9 et 10 milliards
et c'est même pas certain
d'ailleurs, et avant on disait que ça allait commencer à décroître vers l'an 2100, aujourd'hui on dit plutôt que ça peut commencer à décroître dans les années 2080, 2070 voire 2060. Mmh. Et déjà que toutes les aires géographiques, Afrique exceptée, sera déjà
en décroissance
dans les années 2040.
Voilà.
Et l'Afrique, elle, commencera à être en dessous du seuil de renouvellement à peu près dans les années 2070-2080. Alors après, il y a un certain temps de latence entre le moment où on est en dessous du taux de renouvellement et le moment où la population décroît. C'est-à-dire que, par exemple, la Chine, et ça fait depuis longtemps qu'ils sont en dessous du seuil de renouvellement, mais ils ont commencé à décroître qu'en 2022.
Voilà.
En plus de ça, on a un vieillissement de la population chinoise, donc forcément, le temps que... En fait, c'est le temps que les grosses générations anciennes
un double phénomène que dont les démographes sont très conscients. C'est que la première des choses, c'est ce qu'on appelle le taux de fécondité des femmes. Mm-hmm. On a fait toute une émission là-dessus il y a quelques temps. Je crois que c'était avec Emmanuel, c'était important. Et qui vous dit le nombre d'enfants par femme. Donc, en principe, il faut à peu près 2,1-2,2 voilà. enfants par femme pour renouveler la population. En partant du principe qu'elles doivent pas se renouveler simplement elles-mêmes, mais aussi les hommes, dont un certain nombre de femmes pensent qu'ils sont pas vraiment nécessaires, mais quand même, jusqu'à plus fort informé.
Oui.
On a besoin d'eux aussi pour faire des enfants.
Voilà.
Même si la contribution est plus faible. Ça, je suis d'accord. Donc, le nombre d'enfants. Donc, vous avez de moins en moins d'enfants, mais c'était compensé pendant très longtemps par les progrès de la médecine, etc., la hausse du niveau de vie qui fait que la durée de vie augmentait. Donc,
voilà.
Vous aviez un double phénomène. On avait de moins en moins d'enfants, mais les vieux ils vivaient de plus en plus longtemps. Et les deux sont en train d'arriver, en particulier le vieillissement de la population, au maximum, c'est-à-dire vers 70, entre 70 et 80, on a du mal à passer ça. Et hop, donc ça veut dire qu'à partir de 2050, 2060, 2070, ça va commencer à chuter partout.
Voilà.
Et il y a des pays où ça va chuter particulièrement lourdement, c'est le Japon où ça a bien commencé, la Chine où ça a bien commencé, Singapour, la Corée est à 0,9 enfants par femme, ce qui est tout à fait extravagant. Donc on est dans un monde extraordinaire où on nous a cassé les pieds, les Malthusiens, vous savez qu'ils sont mes ennemis depuis toujours. Le Christ, quand on lui a dit ce qu'il fallait faire, il a dit croissez, multipliez, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de... Il ne croyait pas au malthusianisme, le Christ. Eh bien, le diable y croit. Donc l'idée, c'est qu'on était trop, qu'il fallait tuer les vieux, ce qu'on commence à faire en France, partout d'ailleurs, avec les lois sur l'euthanasie, en Belgique où elle existe, en Hollande où elle existe, en Suisse où elle existe, ou au Canada où elle existe, et où on tue des gens de 27 ans maintenant, qui demandent à mourir. Et donc, il y a d'abord la permission légale de tuer, en particulier les vieux. Et la deuxième chose qui se passe, c'est que on pensait que les femmes, quand les femmes sont devenues maîtresses de leur conception, on pensait que les femmes allaient avoir deux enfants, allez, deux ou trois, parce que c'était ce qu'on pensait que voulaient les femmes en façon générale. Eh ben, on s'est trompé. En réalité, il y a plus de la moitié des femmes qui veulent pas du tout avoir d'enfants.
Mmh.
Et ça, c'est un truc auquel on s'attendait pas du tout, mais pas du tout. Alors, on se retrouve donc avec la moitié des femmes aux États-Unis qui ont plus de 30 ans et qui n'auront jamais d'enfants. Ça veut dire qu'on, à la place de rentrer dans un monde qui est naturellement jeune, en expansion, plein d'optimisme et d'avenir, là, on va se retrouver avec chaque grand-parent, comme en Italie, ayant un petit enfant, c'est-à-dire n'en ayant pas, comme j'ai la chance de le faire moi, 11, ce qui est bien.
Oui, tout à fait.
Vous êtes quatre grands-parents avec un petit enfant.
Oui, oui, c'est ce qui se passe en deux générations, c'est le taux de fécondité est de 1. Voilà. Voilà, forcément.
Forcément, là, vous vous retrouvez au bout de 25-30 ans, avec, non, 50 ans, pouf, vous vous retrouvez avec un petit enfant. Inutile de vous dire qu'il est gâté pourri, un peu obèse, qu'il ne voit pas où il devrait travailler parce qu'il va avoir quatre maisons, mais il ne se rend pas compte, ce couillon, que personne ne lui achètera ses maisons.
Oui, voilà, forcément, effectivement. Si on
il comptait sur l'héritage immobilier, ça ne va pas être terrible. Quoi. Ouais.
C'est sûr.
Et même les terres, ça ne va pas être terrible s'il n'y a personne pour labourer. Quoi.
Ouais.
Donc, on rentre dans un monde curieux où on va vers une pénurie de main d'œuvre gigantesque dans les 20 ans qui viennent.
Mmh.
Ce qui va être très difficile pour les pays qui taxent beaucoup le travail, comme notre cher pays. Parce que si vous êtes un bon travailleur, bien formé, un bon ingénieur, etc., et que vous, après impôt, il vous reste 300 euros par mois pour vivre, et que si vous allez vivre, je sais pas où, quelqu'un qui vous paye convenablement, vous en restera 3000. C'est-à-dire qu'on va avoir des mouvements de population extraordinaires. Les plus doués de chez nous vont aller bosser en fonction de leur de l'endroit où ils seront le mieux payés.
Ah bah carrément.
Et bah donc si vous voulez, ça veut dire que qui va payer votre retraite, mon pauvre garçon ?
Ah bah ça, je crois que notre génération va devoir compter sur elle-même et va devoir essayer de
se débrouiller. Vous n'aurez pas de retraite. Vous n'aurez pas de retraite.
Non, mais pas venant de l'État en tout cas.
Venant des autres non plus.
Oui. Non mais voilà, faut pas compter sur les cotisations officielles. Faut se faire son propre système.
Il faut peut-être investir dans des pays où qui sont à peu près raisonnables et où il y aura des retraites. C'est pour ça qu'on a fait quelques émissions ici sur l'Inde par exemple, parce que l'Inde à l'horizon de 2030, c'est le seul pays où aura une force de travail bien formée, jeune. Et donc, vous savez que si vous investissez en Inde aujourd'hui, dans des bonnes actions, je ne les connais pas d'ailleurs, mais enfin, moi, ça ne me gêne pas, pour en parler, s'il fallait parler des trucs qu'on connaît, on ne dirait pas grand-chose. Hein.
Ça se saurait dans cette émission.
Ça se saurait. On n'aurait pas le succès qu'on connaît.
Oui.
Non mais je veux dire par là, c'est que acheter des sociétés indiennes bien cotées, des bonnes sociétés indiennes, ben, c'est peut-être une façon d'assurer votre retraite, parce que si l'Inde est en retard d'à peu près 20 ans sur tout le monde, donc
elle est encore
dans la phase d'expansion de la population.
C'est un retard, oui, qui va vite être comblé. Et aujourd'hui, oui, si vous avez quelques investissements diversifiés dans le marché indien, je pense que
surtout vous les vendez pas, vous le gardez.
Voilà. Il y a vraiment moyen de faire un très très bon rendement sur les 10-20 prochaines années.
Exactement.
C'est sûr, ça promet d'être pas mal. Mais alors, est-ce que vous pensez que cette propension à la dénatalité, surtout dans les pays de l'Occident, parce qu'à la limite, je connais un peu moins forcément les sociétés d'Asie de l'Est.
Ça se passe aussi en Asie de l'Est, ça se passe à Singapour,
ça se passe globalement dans tous les pays vraiment développés. Quoi,
c'est-à-dire que littéralement, c'est presque l'inverse du taux de développement.
Ouais.
On se rend bien compte que les femmes éduquées, etc., elles vont dans le travail et on pensait qu'elles... Le but de leur vie, c'était de transmettre la vie, et ben, pas vraiment.
Oui, c'est sûr.
Elles sont les seules qui peuvent le faire, faut pas se tromper.
Absolument.
Quoi.
Et derrière, il y a aussi une autre implication, c'est qu'on regarde beaucoup le taux de natalité, mais imaginons deux sociétés avec un taux de natalité égal, avec deux enfants par femme, par exemple. Si on a une société qui fait des enfants plus jeunes que l'autre, il va y avoir plus de personnes aussi.
Exactement.
Si vous avez des parents qui sont en moyenne parents à 25 ans, vous allez avoir peut-être quatre générations d'individus, les enfants, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents qui vont vivre en même temps. Si vous avez en revanche une société dans laquelle les parents deviennent parents au-dessus de 35 ans, l'arrière-grand-parent, il va être un petit peu moins présent a priori. Donc on n'aura que trois générations d'individus.
C'est ce que disait la duchesse de Gramont. Voilà. Il y avait une formule célèbre qui dit « Ma fille va dire à ta fille que la fille de sa fille pleure ».
Oui, là, on c'était a des parents jeunes, a priori,
je pense. Voilà, mais vous voyez ce que je veux dire, c'était quelque chose qu'on pouvait dire en France il y a encore un siècle. C'était pas toujours facile parce que les femmes mouraient en couche, etc. Mais enfin, ma fille va dire à ta fille que la fille de sa fille pleure, il n'y avait pas de problème de démographie à ce moment-là.
Oui, oui, ça c'est sûr.
Et voilà, tandis que maintenant, bah, je connais peu de femmes qui peuvent dire ma fille va dire à ta fille.
Ouais.
J'ai une sœur qui est arrière-grand-mère, oui.
Ouais.
En fait, deux sœurs qui sont arrière-grand-mère.
Ouais. Non, mais il y en a encore, mais c'est vrai que si on continue d'aller dans cette logique-là, de faire des enfants de plus en plus tard, on va connaître de moins en moins d'arrière-grands-parents. Ouais. Je pense que c'est déjà le cas. Je pense que globalement, il y a moins d'enfants aujourd'hui qui connaissent leurs arrière-grands-parents que ce n'était le cas il y a ne serait-ce que 20 ans, 40 ans.
Oui, ouais, tout à fait. Et, et surtout, les arrière-grands-mères, parce qu'il y avait il y avait aussi, on se mariait, en général, 7 ans, il y avait 6 ou 7 ans d'écart, puisque quand j'étais, mes parents étaient jeunes, mais il fallait avoir une situation pour se marier.
Mmh.
C'était, un homme se mariait quand il atteignait 27 ans, quelque chose comme ça. Il avait une situation. Une situation, c'était un mot qui était horrible. Donc à ce moment-là, il épousait une fille de 20 ans, et puis lui, il claquait, et puis on avait la chance de connaître l'arrière-grand-mère.
Oui, oui, tout
mais
à fait.
Maintenant, c'est le coup d'attendre d'avoir une situation. C'est pas le truc qui détermine les gens. Donc, la connaître son arrière-grand-mère, ça va devenir assez rare, quoi.
Oui, c'est vrai, tout à fait. Même moi, j'avais des camarades qui connaissaient, enfin, il y en avait quelques-uns qui avaient des arrière-grand-mères. Moi, l'arrière-grand-mère que j'ai le plus connue, elle est décédée lorsque j'avais 16 ans. Aujourd'hui, c'est assez rare de connaître son arrière-grand-mère jusqu'à 16 ans.
J'avais quelqu'un qui m'a servi de grand-mère que j'aimais beaucoup, qui était la dernière d'une famille nombreuse d'origine alsacienne, mais en plus c'était un peu une feuille d'automne, c'est-à-dire que ses parents l'avaient eu avec pas mal de temps après l'avant-dernier, et elle parlait de son grand-père à elle, qui avait fait sa communion sous la Révolution française.
Ah oui, ah oui.
Donc, parce que c'était deux ans en l'espace de... C'était un vieux
monsieur qui s'est marié. Beaucoup de temps d'écart entre les générations.
Beaucoup de temps d'écart. Et c'était rigolo parce que vous vous rendez compte que comme ça, en très peu, en deux générations, vous remontiez à la Révolution française.
Ouais,
la Révolution française,
oui,
qui se parlait. Elle avait entendu parler de son grand-père.
Ouais. Ah oui, c'est dingue.
Donc, ça faisait des sauts dans l'histoire, c'était très étonnant.
Mais alors, est-ce que vous pensez que cette propension à faire moins d'enfants, particulièrement dans les pays d'Occident, est-ce que vous pensez que c'est plus quelque chose qui est entré dans notre culture, plus d'ordre idéologique, ou est-ce que c'est plutôt d'ordre matériel?
Ben, si vous voulez, c'est extrêmement difficile à déterminer, parce que dès que vous parlez de natalité, etc., vous rentrez... dans le domaine des femmes.
Oui.
Et si
oui,
vous parlez en tant qu'homme du domaine des femmes, on va immédiatement vous dire que vous êtes un gros facho, que vous comprenez rien.
C'est ce qui s'est passé récemment quand Macron a parlé de réarmement démographique. Bon, pour le coup, Macron il dit bien des conneries, mais enfin, il a pas tort de parler de réarmement démographique aujourd'hui en France.
Mais c'est pas un réarmement,
c'est pas bien
parce
passé.
Que c'est pas une guerre. Donc
oui, c'est
un suicide. Alors, la question, parce que il y a quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est qu'on a eu un boom démographique extraordinaire en France, qu'on appelait le baby boom. Mais il a commencé quand? Il a commencé en 42.
Mmh.
C'est-à-dire quand les Allemands étaient en France, que la France était au fond du trou, etc. Donc, il peut y avoir, dans les grandes périodes de traumatisme, une espèce d'appel à la vie qui fait que les femmes sentent que c'est le moment d'y aller, quoi. C'est curieux. Est-ce que ça se passera? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est l'espoir qu'on peut avoir. Je crois qu'il y a une pression morale extraordinaire sur les femmes depuis 50 ans pour l'expliquer que être mère, c'était abandonner tout espoir d'avoir une vie à elle. Et aujourd'hui, d'après tous les sondages d'opinion qui sortent, il y a par exemple Harvard qui fait des sondages avec les mêmes questions sur les femmes depuis à peu près 60 ans. Donc on commence à avoir un recul historique. Et jamais les femmes n'ont été aussi mal. Donc, il y a peut-être une génération de femmes qui va arriver en disant « Bon, ben, j'ai été élevé par... une domestique, je sais pas quoi, philippine, dans le meilleur des cas, ou alors par un jardin d'enfants où mes parents allaient jamais. Et j'ai pas vu mes parents, et j'aimerais bien avoir quelque chose qui a disparu un peu. Une famille. Ouais, mmh. C'était quand même le but de la civilisation pendant 20 siècles, en particulier de la civilisation chrétienne, quoi. Donc, est-ce qu'on va retourner vers ça ou est-ce qu'on va continuer le suicide? Je sais pas, parce que c'est dans le cœur et les entrailles des femmes que ça va se passer. C'est pas chez moi. Moi, je suis toujours d'accord pour faire des enfants.
Oui.
Comme la plupart des mecs, hein. Ouais.
C'est possible. Oui, c'est sûr, ça nous engage moins qu'elle, a priori.
Oh, ça dépend. Hein. Je vois que vous êtes père. Vous en prenez plein la tête après pour les élever, ces petits monstres. La décision de transmettre la vie, ça n'appartient qu'aux femmes. Il y a qu'elles qui ont cette capacité.
Oui.
Et donc, il faut d'abord qu'elles reprennent la conscience que la vie vaut la peine d'être vécue.
Oui.
Et moi, ce qui me sidère quand je parle à des femmes de 35, 40, 45, 50 ans qui n'ont pas eu d'enfants, c'est qu'elles me disent, mais tu te rends pas compte, on va mettre des enfants dans ce monde abominable. Mais je leur dis, vous êtes allé vous balader le long d'une plage quand le soleil se couche?
Non, mais je veux dire.
Il est pas abominable, le monde. Arrêtez de me foutre la paix.
Et le monde est beaucoup moins abominable, justement, si vous faites des enfants et que vous faites en sorte, ça vous donne une raison supplémentaire de rendre ce monde un petit peu moins abominable aussi.
Et puis, il est pas abominable, moi, je le dis toujours en rigolant. Mon père, il a fait 4 enfants avec ma mère. En Syrie pendant la Deuxième Guerre mondiale, et il était condamné à mort. Et la Deuxième Guerre mondiale, c'était pas une période qui était particulièrement agréable. Hein.
Mmh. Tout à fait.
Et donc, c'est pas une question. C'est une question de confiance.
Ouais.
Une question de confiance dans la vie, de conscience de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut être. Je vais dire une bêtise, mais ma chère épouse que j'ai rencontrée quand j'avais 18 ans, elle en avait 15. On discutait quand elle avait 17, 18 ans avec des amis de ce qu'on voulait faire dans la vie. Elle était intelligente, elle était plutôt jolie aussi et tout. Et elle a déclaré devant tout le monde qu'elle, ce que voulait être, ce qu'elle voulait être, c'était grand-mère. Moi, je me suis dit, tiens donc. En voilà une qui a l'air de vouloir fonder une famille.
Ouais.
Et donc, ce truc de... Combien il y a de jeunes femmes aujourd'hui dont le but dans la vie est d'être grand-mère? J'en sais rien.
Ah, mais... ça, il y en a assez peu.
Mais c'est peut-être, ça, c'est peut-être là qu'est le cœur du problème.
Ouais. Oui, c'est sûr. Et je
pourquoi
pense...
Parce qu'elle adorait sa grand-mère. Ce sont des souvenirs personnels, tout ça. Mais ça veut dire que dans les familles, quand vous aviez justement ce lien entre les générations, qui s'est peut-être un peu rompu, je sais pas... Vous aviez des exemples de gens qui étaient en équilibre, qui a été entouré d'enfants, de petits-enfants. Et ben autrefois, il y avait les maisons de famille où on allait, on retrouvait des cousins. Il n'y avait rien à foutre à la campagne. Il n'y a toujours rien à foutre à la campagne. Mais on allait chasser les cigales, mettre une paille dans le derrière. Enfin, il y avait des trucs passionnants à faire.
Ouais, bien sûr.
C'était vachement bien.
Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, comment dire, les femmes ne vivent pas leurs ambitions par rapport, effectivement, au fait d'avoir une famille. Parce que quelque part, je sais pas, peut-être que c'est trop facile pour elles. C'est ce que toutes les femmes ont fait depuis que l'homme est homme. Peut-être que donc elles ont envie de d'être un peu originales par rapport à ça. Et elles veulent se consacrer à une carrière et donc faire des études parfois qui sont interminables. Elle termine sur le marché du travail à 25, 26, 27 ans. Derrière, il y a le temps de monter peut-être les premiers échelons, etc. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus rare d'être parent avant 30 ans.
Et parfois 35.
Et
vous avez toutes les femmes qui ont dépassé, j'avais lu une statistique un jour d'un démographe qui disait, je crois que c'est 30 ans, 35 ans, je me souviens plus très bien. Mais une femme qui n'a pas eu d'enfant à 30 ans, 35 ans, elle a 50 chances sur 100 de ne pas en avoir.
Mmh.
Même si elle le veut.
Ouais.
Donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'elle se prépare à une longue vieillesse. Hein.
Oui, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain seuil...
Ramasser
oui.
les œufs de chocolat avec les petits-enfants,
ouais.
Elle ne connaîtra pas ça. Quoi. Alors, c'est bien ou c'est pas bien. Mais, alors, il y avait... J'ai assisté à une conférence donnée par un ancien Premier ministre australien à Londres, qui était très intéressante. Lui, il avait été Premier ministre, et Il avait une politique que je trouvais très intéressante. Il disait, dans le fond, la femme a trois choix. Soit elle peut travailler, etc. Soit elle peut travailler à mi-temps. Soit elle peut décider de se consacrer à sa famille. Et il faut que le système fiscal du pays soit indifférent aux trois solutions. C'est-à-dire que ce ne soit pas... une raison financière qui pousse la femme à prendre ce choix, que ce soit à chaque fois un choix volontaire. Et je m'étais dit, tiens, il résonne bien ce gars-là, parce que, en effet, aujourd'hui, compte tenu du prix des appartements, des trucs comme ça, beaucoup de femmes travaillent pour des raisons financières, quoi.
Mmh. Oui, c'est sûr.
Et alors, que dans le temps, quelque part, c'était le type qui allait chasser l'ours. Et puis la femme, elle restait pour découper l'ours quand il arrivait. Bon, mm-hmm. Je sais pas que c'est bien ou c'est mal, mais c'était l'homme qui...
Oui, mais je veux dire, même il y a 50 ou 60 ans, globalement, un salaire était suffisant pour nourrir une famille et pour être propriétaire d'un logement, voilà. Parce qu'il y a ça aussi aujourd'hui qui pèse.
Et alors, il y a aussi autre chose qui se passe, c'est qu'il y a un nouvel phénomène qui est apparu dans cette baisse de la natalité, c'est le divorce.
Oui.
Aujourd'hui, vous avez une augmentation du divorce qui a été extraordinaire. Et d'après toutes les statistiques, dans 80% des cas, c'est les femmes qui demandent le divorce. Mmh. Et encore une fois, je pense pas, c'est des statistiques, je porte pas un jugement de valeur sur les faits. Je dis, c'est donc qu'est-ce qui s'est passé pour que les femmes aient cette impression d'échec, vous voyez ce que je veux dire, pour qu'elles veuillent sortir d'une situation qui leur plaît pas. Mmh. Ben, je sais pas non plus, quoi. C'est. Donc, vous avez eu le plus grand changement sociologique qui a eu lieu depuis 60 ans à peu près, c'est que c'est les femmes qui sont devenues maîtresses de la fertilité. Bon, ça, c'était un changement extraordinaire. Le deuxième, c'est qu'on a permis... les femmes sont devenues aussi celles qui permettent de rompre l'unité familiale, qui a encore le divorce était encore interdit en Espagne il y a 50 ans, quoi, 40 ans, donc c'est assez nouveau. Le divorce en Italie, vous ne pouviez pas divorcer. Et ça veut dire que la stabilité de la famille, qui repose, qu'on le veuille ou non, sur la femme, a été ébranlée comme jamais, quoi. Donc vous avez le phénomène de ces familles recomposées, qui sont, bon, qui existent, mais... Mm-hmm. On n'imagine pas le bouleversement sociologique qui s'est passé dans la cellule familiale depuis 50 ans. Quoi.
Ouais. C'est sûr.
C'est inouï. Et il ne peut pas ne pas y avoir de relation avec l'effondrement de la fécondité.
Ouais, c'est sûr.
Une femme qui se dit, c'est certain. Je vais le plaquer, il m'emmerde, elle ne va pas faire 4 ou 5 enfants avec lui. Quoi.
Ouais. Ah oui, c'est clair.
Je ne sais pas.
Oui. Alors après, peut-être que la normalisation du divorce, peut-être que ça amène à un autre phénomène qui est peut-être aussi la normalisation du fait de refaire des enfants avec un autre compagnon
plus
tard.
Oui, mais si le mec se barre à 40 ans, bien sûr qu'il va aller refaire des enfants.
Oui, pour la femme, c'est plus difficile. Ouais.
Pour Monsieur Macron, ça a été plus difficile parce qu'il avait choisi au-dessus. Bon, mais ça, on va parler d'autre chose. Mais pour si la femme a 40 balais, ça va pas être un cadeau. Hein.
Oui, c'est sûr.
Donc, il y a eu tout ça. Et bon. Et ça veut dire que la famille dans une société libre et libérale, celle que j'aime, c'est quand même le noyau essentiel qui permet à chacun de résister à la dureté de la vie. C'est-à-dire que c'est l'endroit où vous allez vous réfugier quand vraiment vous prenez trop de claques. Vous savez, mm-hmm. vous sentez dans votre famille. Bon, comme mon cher père a disparu, donc je devais avoir 35 ans, j'ai eu l'impression que le monde s'écroulait. Parce que quand je trouvais que la vie était trop dure, j'allais passer une semaine ou 10 jours avec mes parents, et là, je retrouvais un monde qui n'avait pas bougé, qui était stable, dans lequel je pouvais lécher mes blessures, en quelque sorte. Et donc, c'était aussi ça, c'était l'endroit où on pouvait aller se réfugier chez ses parents, s'il y en avait une qui était veuve, paf, elle pouvait aller il y avait quelque chose qui se passait, qui était un devoir d'entraide intergénérationnelle, quoi. On n'avait pas besoin de la sécu, allez.
Mmh, ouais.
Ou de la retraite. Eh ben, c'est fini. Aujourd'hui, on a plein de droits individuels, mais il y a cette espèce d'environnement collectif qui est complètement disparu.
Ouais.
Et c'était une forme de communisme.
Oui, mais le communisme peut s'entendre en quelque sorte dans une cellule familiale.
Mais absolument.
Voilà,
c'est même parfait là. C'est là que c'est que ça se passe.
Mais oui, c'est sûr.
Je crois que les gens qui sont communistes, c'est qu'ils voudraient rétablir à l'échelle de la nation cette espèce de douce atmosphère qu'il y a dans une famille, mais c'est pas possible.
Ah non, mais d'ailleurs, les communistes détestent la famille.
Oui.
Voilà. Quand on veut établir le communisme à l'échelle de toute une nation, toute une société, toute une population, on déteste la famille.
Et souvent,
on veut séparer
les
enfants
des parents. Ils préconisent le partage des femmes.
Oui.
C'était l'idée.
Enfin, surtout les femmes des autres, parce que le partage de la sienne peut-être un peu moins.
Oui, non, mais c'est pas tout à fait.
Et puis, comment dire, il y a quelque chose qui est assez frappant, je trouve. Aujourd'hui, particulièrement peut-être en France, peut-être dans d'autres pays européens, c'est l'implémentation dans la culture populaire générale de la détestation des enfants. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de restaurants qui veulent pas accueillir d'enfants. Je vois même des adultes qui se plaignent de croiser des enfants quand ils vont à Disneyland. C'est-à-dire que en fait, eux-mêmes adoptent finalement un comportement d'enfant, ce qu'on appelle les adolescents. C'est-à-dire, en fait, ils ont 25 ans, parfois plus de 30 ans, et en fait, ils se comportent exactement comme des ados.
Ils ont des jouets,
d'ailleurs.
Ils ont
des jouets, ils collectionnent des trucs, des cartes Pokémon, des machins, exactement comme les enfants, quoi, comme les enfants de 10 ans. Et ce qui est paradoxal, c'est que eux se comportent comme des enfants et ils détestent les enfants. Peut-être parce que justement les enfants leur rappellent que eux ils sont adultes et que du coup
La concurrence, ils veulent être considérés toujours comme ça. Ça, c'est très curieux. Je l'ai vu aussi, ils détestent les enfants. Et il y a une autre chose qu'ils détestent aussi avec beaucoup d'agressivité, c'est les vieux. Ils détestent les enfants, ils pensent qu'ils resteront toujours entre 30 et 50 ans, vous savez, ils vieilliront jamais, ils sont là. Et donc, il n'y a aucune sympathie pour les vieux, et il n'y a aucune tendresse pour les enfants. Et moi, ça me paraît complètement farfelu, encore une fois. Parce que là, c'est des endroits, si vous voulez, qui touchent très fort à l'émotion. Et là, ce matin, j'étais sur mon scooter, je rentrais, il y a une école qui est passée devant moi avec la maîtresse, et puis le maître et tout, il se donnait la main, vous savez, il devait avoir 7-8 ans. Il était mignon comme tous. Et je me suis poilé parce que toutes les filles se donnaient bien la main sachement. Elles étaient avec les maîtresses devant, quoi. Et puis je me suis dit, mais c'est une école de filles. Et pas du tout, tous les garçons, ils étaient
derrière.
ils étaient derrière en ordre dispersé en train de se mettre sur la gueule.
Ouais. Il y a des choses qui changent pas.
Je me suis dit, donc, c'est pas la même bête, quoi.
Ouais.
C'est pas la même bête. Arrêtez, si vous avez des garçons et des filles, vous savez que c'est pas noté pareil, quoi.
C'est sûr.
Les garçons, et ça s'était fait naturellement, quoi.
Ouais.
Toutes les petites filles étaient autour de la maîtresse, en bon ordre, et tous les autres, ils faisaient n'importe quoi derrière, quoi.
Oui, mais certains vous diront qu'ils se comportent comme des garçons parce qu'on leur a dit qu'ils étaient des garçons et qu'on leur a dit ce qu'étaient des garçons. Évidemment,
bon,
évidemment que c'est pas vrai, ça.
Non, c'est pas vrai du tout, ça.
C'est dans notre biologie, ça.
Bah oui, les garçons, ils ont une agressivité dans toutes les courbes de Gauss, vous savez, qui déclinent les caractéristiques humaines. On est tous comme ça, il y en a. Vous voyez très bien que les garçons sont un peu plus agressifs que les femmes, dans les courbes de Gauss comme ça, mais que tous les gens complètement agressifs qu'on retrouve en prison ou à la tête de l'État, quoi, les mecs, qui sont pas tout seuls dans leur tête, là, ils sont tous des garçons.
Oui.
C'est-à-dire que les cas d'agressivité très forte se trouvent que chez les mâles.
Ouais. Oui, c'est sûr. On peut trouver des femmes plus agressives que des hommes, mais si on prend, par exemple, 1% de la population la plus agressive, on va trouver quasiment à très très peu de choses près que des hommes.
Que des hommes. Et c'est pour ça que dans les populations carcérales, il y a 90 ou 95% de garçons.
97%.
C'est pour ça que les gars qui sont dans les populations carcérales, ils déclarent qu'ils sont des femmes pour aller dans les prisons de filles, où c'est quand même plus sympa.
C'est ça, oui,
surtout s'ils sont mignons. Quoi.
Oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est beaucoup
plus cool. Si vous avez réservé des ennuis, il faut absolument que vous fassiez votre coming out.
Oui.
Et que vous alliez vous faire enfermer dans une prison de femmes.
Moi, j'hésiterais pas à le faire aujourd'hui, hein, clairement. Si jamais je me retrouve dans cette situation, je pense que...
Vous serez bien traité dans une prison de femmes, je suis sûr.
Ah, je pense que ça devrait aller, oui. Bon, faudrait peut-être raser la barbe, mais enfin, dans quelques années, ce sera même pas requis, hein. C'est déjà le cas en Espagne. Aujourd'hui, on vous demande rien.
Vous pouvez
déclarer ce que vous voulez.
C'est vraiment... D'abord, la première chose que je dis, c'est qu'il y a deux animaux qui sont assez différents, le mâle et la femelle. Que la femelle, pour des raisons X, Y ou Z, a décidé de ne pas se reproduire, et pas de reproduire l'autre, du coup, et que personne n'y comprend rien.
Ouais.
Personne ne comprend pourquoi ça se passe.
C'est vrai qu'il y a, alors il y a des causes, mais on ne sait pas si elles sont plus importantes que les autres, si elles se conjuguent entre elles. C'est sûr
que c'est durable.
C'est durable. C'est sûr que je pense qu'il y a plusieurs causes. Alors certains attribuent un peu trop facilement des causes idéologiques, par exemple le féminisme, etc. Bon, il y a peut-être une petite part de responsabilité là-dedans. C'est vrai que alors il y a plusieurs. Je crois que c'était le Financial Times ou The Economist qui avait fait une étude là-dessus sur plusieurs pays développé globalement sur particulièrement le positionnement politique de la jeunesse, et on voit que les femmes se déclarent de plus en plus féministes, de plus en plus à gauche, alors que les hommes se déclarent de plus en plus conservateurs, de plus en plus à droite. C'est sûr que c'est le genre de choses qui ne facilite pas à une échelle globale la rencontre, on va dire, saine entre les deux sexes.
Parce que la gauche aujourd'hui, c'est devenu le support de cet état nounou qui remplace la famille.
Oui, c'est vrai.
Et donc, ben, s'il n'y a plus de famille qui vous enveloppe, ben, vous allez chercher une famille de substitution et c'est l'état nounou.
Tout à fait.
Et donc, tout ça est très bizarre parce que finalement, les gens de gauche parlent aux femmes pour les maintenir dans un état de sujétion, alors qu'ils condamnent les femmes qui sont dans un état de collaboration avec leur mari en leur disant qu'elles sont dans un état de sujétion.
Oui, oui.
Donc il y a aussi encore un gros mensonge là.
Et je peux vous dire que les femmes qui sortent avec des hommes de gauche sont pas forcément mieux traitées ou plus heureuses que celles qui sortent avec des hommes de droite. Je pense que c'est même plutôt l'inverse.
Elles peuvent se faire taper dessus d'ailleurs.
Elles peuvent se faire taper dessus. C'est quand même, je veux dire, plutôt récurrent visiblement à la France Insoumise. Hein. Bah, apparemment, vous sélectionnez vos hommes comme ça même. Je sais pas s'il y a un club de boxe, si ouais, peut-être on remplit un questionnaire, on sait rien. Non, c'est jamais de leur faute.
Il y a des circonstances atténuantes. Non. Et je tiens à dire un truc ici, c'est qu'il ne peut pas y avoir de circonstances atténuantes à un homme qui tape sur une femme. Mm-hmm. Ça n'existe pas.
Donc, même si elle est très chiante. Voilà.
Bon, il n'y a pas de circonstances atténuantes, il n'y a pas de truc. Un type qui tape sur une femme est une ordure.
Oui, ouais, c'est condamnable dans tous les cas, effectivement. Et alors il y a évidemment le féminisme peut-être qui joue une part de responsabilité là-dedans. Après il y a des causes peut-être plus matérielles. Bon déjà l'accès un peu tardif au monde du travail, c'est-à-dire hein, l'indépendance financière, indépendance un peu en tout genre.
Mais les femmes d'autrefois travaillaient énormément.
Ouais.
D'abord faire des enfants c'était un boulot pas possible, s'en occuper, les élever, les amener à l'âge adulte. Et aujourd'hui on a décidé qu'on va y travailler tous les deux. Et on travaille tous les deux très bien, mais il faut que quelqu'un s'occupe des enfants, donc on embauche une Philippine ou je sais pas quoi, qui vient travailler à la maison. Et si vous calculez après impôt, vous vous dites, bon, la Philippine, on peut pas la déduire, et par contre, le salaire de la femme, on l'inclut dans les deux, là, ce qui fait que ça reviendrait moins cher à la famille, sans doute, si la femme travaillait pas. Et s'il n'y avait pas de Philippines, si c'est elle qui s'occupait des gamins et de faire tourner la maison.
C'est possible, oui.
Et donc, ça veut dire que les femmes, fondamentalement, préfèrent faire élever leurs enfants par des Philippines que par elles-mêmes.
Mmh, ouais.
Bah, c'est bizarre.
Oui, ça, c'est bizarre, oui. C'est le genre de choses.
Je sais pas, c'est pas quelque chose qui serait arrivé à l'idée de ma mère, quoi.
Ouais, effectivement. Surtout que, bon, dans beaucoup de cas, c'est possible. Ça revient à demander peut-être aux femmes d'abandonner leur carrière ou d'avoir une carrière un peu limitée. C'est-à-dire que peut-être on pourrait imaginer un système où les femmes travaillent moins de temps, du coup sont moins payées, mais sont disponibles le soir, par exemple, pour s'occuper des enfants. Puisque de toute façon la journée ils sont à l'école, donc il n'y a pas forcément besoin d'être là, en tout cas pas pour les plus de 3-4 ans. C'est sûr, oui, ça pourrait être une possibilité.
Alors oui, je sais, et ça, mais par contre on voit se développer aussi, je le vois dans ma propre famille, il y a des familles où il y a une femme qui est particulièrement brillante, j'en sais rien, où c'est la femme qui va travailler, c'est le mec qui reste à la maison.
Ah oui, c'est sûr, ça existe. Oui, c'est vrai que ça existe, ouais.
Ça existe. Donc j'en vois pas mal. Ça, j'ai rien à dire contre parce que ça, voilà. Les enfants, ils restent avec leur père, quoi. Ils ont pas l'air plus malheureux que ça. Hein. Mm-hmm. Donc il est certain que la société s'adapte et que les individus s'adaptent à ce qu'on leur offre. Mais enfin, c'est quand même curieux de voir que partout dans le monde, dès que le niveau de vie augmente, la fécondité s'effondre. C'est ce qu'on disait quand j'étais jeune, on disait le lit de la misère est fécond.
Ouais. Et après, je me pose la question, est-ce que c'est uniquement une question de cycle, Ou est-ce que un jour ça va repartir? Je pense par exemple à la situation italienne où on a tout un tas de petits enfants qui vont se retrouver avec de l'immobilier plein les mains et ils vont pas savoir quoi
faire. Vous avez
des cours
en Italie où vous pouvez acheter une maison pour 1 euro.
Voilà,
non, parce que c'est que les villages sont vides.
Voilà, forcément comme les villages sont vides, il y a plus de maisons disponibles que d'acheteurs, donc forcément ça fait chuter le prix de l'immobilier. Mais derrière, ça rend du coup l'accession à la propriété beaucoup plus facile. Et du coup, c'est aussi plus facile de se projeter avec une famille en se disant je suis propriétaire de mon logement à 28 ans que en se disant là pour l'instant je vais payer mon loyer ou alors j'achète à crédit et d'ici 20 ans j'aurai remboursé mon truc.
C'est là où cette idiotie de la réindustrialisation est peut-être importante. C'est que j'ai des amis qui sont plutôt dans la région de la Bretagne par là-bas qui me racontaient que c'était un homme d'affaires, un patron du coin. Il avait il avait beaucoup d'employés dans le coin, etc. Et ils vivaient tous dans la région. C'est-à-dire que ses usines étaient là et les gens, à la limite, venaient bosser chez lui en bicyclette dans ces différentes usines. Et donc, les maisons, ça coûtait rien autour. Et donc, ils pouvaient avoir des enfants. Ils avaient une ferme à la campagne. Mmh. Les enfants allaient jouer avec les cochons dehors. C'était une vie normale, quoi. Donc, c'est aussi cette baisse de la fécondité, c'est peut-être une conséquence de l'urbanisation.
Ah oui, je pense que l'urbanisation joue effectivement un rôle assez fort là-dedans. Pareil, c'est beaucoup plus difficile de se projeter, de se dire on va avoir des enfants dans un environnement, la plupart des appartements font moins de 50 mètres carrés. Parfois, vous avez même pas un parc juste à côté. C'est sûr, c'est plus facile de se projeter avec une famille à la campagne.
C'est plus facile qu'on mettait des enfants dehors, quoi.
Vous avez un jardin, un chien, ils ont un vélo, ils peuvent aller faire un tour dans la campagne. Vous savez qu'ils vont revenir dans une demi-heure et tout. C'est sûr,
tout le monde surveille. C'est-à-dire que on a vu passer le petit en vélo.
Il y a une communauté aussi. Ville, vous êtes un peu tout seul. Ouais.
En fait, l'urbanisation, c'est aussi un endroit qui amène à la... c'était la chanson de comment il s'appelait, non, de Jean Ferrat, là. C'était le... Pourtant que la montagne est belle, voilà, c'était une belle chanson, ça. Et il y a en effet, c'est que l'homme n'est pas fait pour vivre en ville.
Mmh. Oui, en tout cas, pas trop longtemps.
Et surtout quand il est en âge d'avoir des enfants, c'est-à-dire que... Donc encore une fois, il y a quelque chose, c'est que... je parle pour ma génération, évidemment, ça a beaucoup changé. Mais il y avait chacun des individus, et il y avait la famille. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est quand j'étais jeune à Auch, ou je sais pas où, les gens disaient, par exemple en parlant de nous, tiens, c'est un des fils Gave. Mmh. C'est-à-dire qu'on était identifié par notre nom, mais par le fait qu'on était... une partie de quelque chose en plus, qui était la famille Gave, quoi. C'était rigolo, quoi. Et le fils Gave ou le fils... Vous avez un nom impossible, ouais.
Oui, moi j'ai un nom impossible, ouais. Oui.
Mais Il faut le dire.
Sinon, vous pouvez m'appeler Le Rocher, c'est mon pseudonyme de...
Ah ben Le Rocher, c'est bien le fils Le Rocher, là, hop. Ouais. Et ben, c'est... Donc, c'était une façon d'être identifié. Ouais. Et on savait que si on faisait une connerie en tant que fils Gave... ça allait retomber sur la famille Gave.
Ouais.
Donc on était quand même... on était respectueux du nom qu'on portait.
Oui, c'est sûr. Ouais.
Et tout ça, c'est des trucs qui ont presque complètement disparu, quoi. Mmh.
Effectivement, aujourd'hui, on est plus... Renaud Camus en parle, d'ailleurs, il appelle ça la civilisation du prénom. C'est-à-dire que depuis quelques décennies, effectivement, on se définit davantage par notre prénom que par notre nom. Mmh. Or, le nom est un marqueur, en fait... identitaire, culturel, beaucoup plus fort que le prénom.
Absolument. Et puis en plus, si vous faisiez partie d'une famille où il y avait, mettons, plusieurs frères qui étaient plus grands que vous, j'en sais rien, si dans la classe où vous étiez, vous aviez ce qu'on appelle un bully, vous savez, un type qui vient de martyriser les autres, qui tape sur les autres, on pouvait lui dire, il y a mon grand frère qui va s'occuper de toi.
Oui, oui.
C'était bien.
Oui, c'était de notoriété publique que vous aviez un grand frère qui était passé qui était par là, qui était passé dans la classe.
Qui jouait deuxième ligne, voilà. Et qui allait lui faire une tête au carré. Voilà. Donc, on était plus tranquille. Il y avait une espèce de protection qui était, on avait un voile autour de nous de protection qui était la famille.
Oui, tout à fait.
C'était, et ça rassurait les enfants. Tandis que là, maintenant, je sais pas trop, je peux pas en parler, je sais bien que je dis toujours place aux vieux, mais c'est pas une raison, je peux pas en parler avec beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui, mais j'ai l'impression que le fait que, quand il y a des enfants, qu'il y ait des grands-parents, etc., qui puissent être là pour quand il y a... C'est important pour les enfants aussi.
Oui, bien sûr. Et alors, là, on s'est attaqué un petit peu aux causes de la dénatalité, tout ça. Je voudrais qu'on discute aussi des possibles conséquences. C'est-à-dire que il y a une inquiétude qui est assez légitime, qui est de se dire, est-ce que cette décroissance démographique va provoquer ou non une décroissance économique, une décroissance tout court, quoi.
Mais c'est tout à fait évident. Et alors là, je viens... à une notion qui m'est chère, c'est l'épargne. Vous savez qu'on va essayer de lancer une université de l'épargne pour vous apprendre à épargner et tout, puisque personne n'a jamais fait pour vous. Et donc, imaginez que vous soyez dans un pays comme l'Italie. Si vous investissez votre épargne dans des affaires italiennes, vous bottez en touche. Vous allez vous retrouver avec ramené au problème précédent, si j'ose dire.
Surtout si vous êtes dans l'immobilier.
Si vous êtes dans l'immobilier, non mais vous pouvez pas. Donc, à partir du moment où vous avez des différences démographiques très fortes comme ça, il faut que vous investissiez dans des entreprises qui ont accès à des endroits où il y a des gens qui pourront payer votre épargne, quoi.
Ouais.
Mais si vous investissez que dans des entreprises qui investissent dans la consommation en France, bon, vous gagnerez peut-être de l'argent dans les 3, 4, 5 ans qui viennent, et encore. Mais vous savez qu'à 20 ans, vous êtes foutu, puisqu'il va y avoir un effondrement de la consommation,
ouais, bien sûr.
Sauf de produits médicaux. Mais produits médicaux...
Oui, si on arrive à les produire déjà, parce que
si on arrive à les produire, tout en plus, quand je vois les aujourd'hui, les produits médicaux, c'est dominé par 4 ou 5 grands groupes qui vous vendent des médicaments à un tel prix que c'est pas sûr que vous puissiez vous les payer. Ou si la société continue à être incapable de vous entretenir, on vous donnera peut-être la pilule qui vous cesse de vous faire des soucis, c'est-à-dire on vous permettra de l'euthanasie, quoi, comme ce que veut cet animal de Nathalie. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes dans un pays dont la population décline, il faut réfléchir à la façon dont vous allez organiser votre épargne. Parce que vous ne pouvez pas rester avec l'hypothèse que vous aurez ce qu'il faut chez vous. Dans tous les domaines, c'est pas vrai.
Bien sûr. Et d'ailleurs, toutes les entreprises côté qui ont une vraie perspective de croissance, c'est celles qui sont vraiment dans le monde entier et qui font des profits d'ailleurs pour l'essentiel en dehors de France. C'est pour ça qu'il y a plein de gens parfois qui demandent dans les commentaires comment ça se fait que l'économie française est dans un état déplorable, mais que au niveau financier ça continue de prospérer. Enfin, c'est pour ça, parce que
c'est exactement pour ça. C'est exactement pour ça, puisque je crois que 70% des profits du CAC 40 ou les choses comme ça viennent maintenant de l'étranger.
Voilà.
Donc, la façon dont les gens devraient raisonner, ce serait de dire, écoutez, il y a ces gars-là qui gèrent ces entreprises qui ont compris il y a quelque chose, il y a 20 ans, allez, quand ils ont commencé à se mettre leur production à l'étranger, etc. C'est peut-être eux qu'on devrait mettre à la tête de l'État.
Oui.
Plutôt que les corneaux qu'on a.
Oui, effectivement.
Oui, plutôt que de mettre des fonctionnaires, on ferait peut-être mieux de mettre des gars qui ont prouvé qu'ils pouvaient raisonner à 20 ans. Je dis ça, je dis rien, mais...
Oui, et puis pareil, si on pouvait peut-être éviter, remettre en question du moins le phénomène de la cotisation des retraites par répartition et plutôt du coup...
Ça ne peut pas marcher, ça. On sait que tout, c'est complètement idiot, ça.
Oui. Bah, déjà, en plus de ça, si on revalorise les pensions de retraite chaque année au niveau de l'inflation, là, on a déjà perdu 14 milliards avec la revalorisation là au 1er janvier 2024, sachant que je crois que la réforme des retraites, qui a été quand même bien combattue, c'était censé nous faire économiser, je crois, 17 milliards par an. Donc déjà, on
a perdu 4 ans. Mais j'ai fait montrer quelque chose. Compte tenu de la baisse, vous savez, vos caisses de retraite, là, Agicarco et tous ces trucs-là, elles ont en principe 50% d'obligations françaises. Depuis 5 ans, elles ont perdu à peu près 38% de ces 50%. Donc, à cause de l'inflation, à cause de la hausse des taux, qui sont les conséquences inévitables de ce que nous avons fait et qui va continuer. Mmh. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme les caisses de retraite ne peuvent pas augmenter leur prix, c'est-à-dire prendre plus de gens qui travaillent pour le filet, des gens n'en prend assez pour le filet à ceux qui ne travaillent pas, ben, ça veut dire que les retraites vont baisser en pouvoir d'achat. Mais...
Oui, c'est inévitable. Oui.
Vous pouvez rien y faire, donc c'est pour ça que je me tue à dire aux gens, mais apprenez à gérer votre épargne, parce que si vous croyez que quelqu'un va la gérer pour vous, c'est bien de faire confiance à l'État, mais il faut pas déconner, quoi.
Oui, non, mais c'est sûr. Non, mais le système par répartition, ça peut marcher justement dans un système
qui est en expansion démographique, voilà. Dans un système qui est stable, mais dans un système qui se contracte, par définition,
c'est
pas
possible.
Marcher.
C'est juste pas possible. Ou alors, vous voulez saigner les actifs jusqu'à la moelle et leur prendre 60% de ce qu'ils ont. Et en plus de ça, derrière, ils s'en vont, effectivement.
Alors, j'ai lu un article très intéressant ce matin. Vous avez donc une population nord-africaine importante chez nous, et il y en a certains d'entre eux, par exemple 10% des dernières promotions de Polytechnique étaient marocains, parce qu'ils n'ont jamais fait de réforme de l'éducation, ils sont restés à Jules Ferry. On leur a filé Jules Ferry il y a 60 ans, ils y sont toujours. Donc ça marche très bien l'éducation chez eux. Si vous voulez que vos enfants soient bien élevés dans des bonnes écoles, envoyez-les au Maroc.
Ouais.
Ça me paraît une bonne idée. Et donc tous ces jeunes nord-africains qui sont les mieux formés parmi ces gens-là, ils quittent la France.
C'est compréhensible, c'est tout à fait
mais compréhensible. D'abord, on ne les traite pas bien.
Ouais.
Souvent, on ne les traite pas bien. Et puis ensuite, si vous êtes un bon ingénieur, quand vous allez dans l'Inde ou n'importe quoi, ils ne vous demandent pas si vous êtes... ou aux États-Unis, ou au Canada, ils vous demandent pas de quelle religion vous êtes, et si vous êtes d'où vous arrivez, que vous avez vos parents.
Oui. Puis en plus de ça, si on annonce la fin, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, de certains domaines justement de l'industrie, je pense à l'interdiction des moteurs thermiques en 2035 au niveau européen. Bah vous êtes ingénieur justement automobile chez Peugeot dans ce domaine-là.
Vous avez 40 ans.
Vous dites les gars, nous on va aller aux États-Unis parce que eux à mon avis ils vont pas arrêter de faire des moteurs thermiques.
Ou je vais aller en Inde, ou je vais aller me faire embaucher par Tata, quoi.
Ouais, c'est tout à fait possible aussi.
Ou en Chine ou n'importe où. Vous avez vraiment ce phénomène-là? Et ça a des conséquences multiples, mais il ne faut pas s'imaginer qu'on peut les anticiper. Alors, si vous voulez comprendre comment sera la situation, vous pouvez aller regarder le Japon, parce que c'est le premier des pays qui a basculé vers la décroissance, il y a déjà longtemps. Et il commence à y avoir toute une série d'industries et de systèmes qui se montent, d'aide à la personne automatisée, de robots...
Tout à fait.
Et là... Ça a l'air, il y a des choses qui se passent au Japon qui sont pas inintéressantes.
Oui, alors c'est un modèle très intéressant, effectivement. Je voulais en parler justement. Est-ce que quelque part la robotisation, avec couplé au développement de l'intelligence artificielle aussi, vont pas aider en quelque sorte les sociétés qui décroissent démographiquement à rester globalement un peu compétitives quand même au niveau économique?
Alors il y a ça, et puis vous avez aussi le fait que. Dans ces pays-là, la durée de vie est très longue. Je crois qu'au Japon, c'est plus élevé que chez nous. C'est proche de 80 à 82 pour les femmes. Et du coup, ça veut dire que vous avez à peu près une partie importante de la population qui est entre, mettons, 63, 64 et 82, ou plutôt 78, qui peut travailler, mais qui ne travaille pas. Donc au Japon, il y a un phénomène qui se passe, c'est que vous avez beaucoup de boulot, comme par exemple... je sais pas, le nettoyage des salons, des stations de métro et des trucs comme ça, qui sont faites par des femmes qui sont employées à mi-temps pour faire toute une série de travaux d'utilité publique et pour lesquels ils ont du mal à trouver des gens. Donc, on a dit en plaisantant que... c'est quelqu'un qui a dit ça... C'est que pour la guerre en Ukraine, il fallait pas envoyer les jeunes de 25 ans parce qu'on en avait pas assez. Fallait envoyer les dames de 50 ans, parce que bon, bah.
C'est peut-être moins efficace,
mon frère. C'est peut-être moins efficace, mais en fait, peut-être pas d'ailleurs, j'en sais rien.
Mais elles sont peut-être redoutables, ces Ukrainiennes.
C'est dans le domaine militaire, il y a des gens qui commencent à réfléchir à ça. Mais je me dis que peut-être dans le domaine civil, c'est pas plus couillon de penser à ces, je pense, encore une fois, à Raoul, qui en met la retraite à 62 ans. Mais donc, il y a, aussi curieux que ça paraisse, il y a peut-être une solution. C'est que les jeunes prennent pas leur retraite. Ils ne le prennent que volontairement, c'est-à-dire que ça les emmerde. Si ce qu'ils font les emmerde, ils prennent leur retraite. Mais il y a des tas de gars qui ne devraient jamais prendre leur retraite, quoi.
Et je suis d'accord, oui.
D'ailleurs, j'en suis le premier convaincu.
Ah c'est... oui, bien sûr.
La retraite, c'est un machin qui a été inventé par les jeunes pour se débarrasser des vieux trop compétents, quoi.
Ouais, ouais. Mais justement, c'est peut-être un peu en train de se retourner contre nous, parce qu'au niveau des cotisations, d'ailleurs, ça coûte cher de mettre les vieux à la retraite, hein. Voilà.
Et pas assez, à mon avis. Je vois pas pourquoi je devrais partir à la retraite. Vous vous rendez compte ce que disent les dames anglaises toujours, c'est un mari à la retraite, c'est avoir plus de maris et moins d'argent. Alors c'est pas une combinaison gagnante, hein, c'est pas.
Ouais, c'est pas faux. Non, c'est sûr. Et puis bah aussi.
Et on peut faire la même chose pour les femmes. Elles sont enchantées de sortir de chez elles.
Hein. Oui, c'est sûr. Bah il y a plein de retraités qui se lancent dans le bénévolat parce qu'en fait ils sont habitués à se lever le matin, à faire un truc de
pour
leur journée.
Le bénévolat, par exemple, pour aider les enfants dans les écoles, etc. Ça pourrait se faire, mais en même temps, il faut pas que l'Éducation nationale dise que c'est contraire à la je ne sais quelle règle. Règlement qu'elle a prise dans 1945 et que il peut pas y avoir de bénévolat dans les écoles parce que ce serait c'est complètement idiot quoi. Si les gens ont envie d'être bénévoles avec les gamins, qu'ils le soient, mon Dieu.
Oui. Et effectivement, l'hypothèse d'avoir ne serait-ce que des prestataires à mi-temps pour faire des trucs effectivement d'utilité publique.
Et comme elles se retrouvent, elles sont contentes.
Ah oui, bien sûr. Bah pour le coup, c'est vraiment
un truc social.
Vraiment social. L'utilité, elle se comprend directement quoi. On n'a pas de doute sur l'utilité de ce qu'on fait. Ça donne un sens à notre vie. Je suis persuadé que alors dans certains cas, pas dans ce qui concerne les métiers vraiment manuels très difficiles et très éprouvants, je suis sûr que le travail, à un certain degré, augmente l'espérance de vie des vieux qui continuent effectivement parce que bah vous levez le matin, vous avez une raison de vivre en fait, vous savez pourquoi vous êtes là. Je suis sûr que ça prolonge l'espérance de vie pour ce qui n'est pas des métiers particulièrement difficiles évidemment.
Non, c'est tout ça, c'est donc une façon différente de vivre, mais qui est sans doute beaucoup plus difficile dans les grandes métropoles que dans les villes de taille moyenne. Si je m'écoutais, je dirais que probablement, il va y avoir un mouvement de reflux vers les villes de taille moyenne. Avec le travail par Internet, la rapidité des services de train, etc. Je pense que moi, j'ai une maison à Avignon, comme tout le monde le sait. Bon, ben, le train pour Avignon, de Paris à Avignon, c'est 2h15. C'est pas croyable, vous êtes à 700 km. Bon, vous y allez, c'est très bien, vous travaillez là, et puis vous venez passer 2 jours par semaine, j'en sais rien, mais vous avez la famille, et puis vous avez, c'est pas difficile d'avoir une... Donc c'est une façon, il faut que le travail s'organise différemment. Et ça revient à l'idée que j'ai toujours eue, c'est que au 19e, on a créé des espèces de structures pyramidales. Vous avez le chef au sommet qui donne des ordres, comme une armée, vous savez, c'est l'armée de Napoléon. Mmh. Tout le monde suit les ordres en bas. Et ça, c'était la forme d'organisation des maîtres de forge, des concerns, des trusts, des sociétés où il y avait 150 000 personnes qui étaient de croupes, de tout ça. Mais quand vous regardez la forme d'organisation des sociétés aujourd'hui, ces espèces d'amibes qui se déplacent comme ça, il n'y a plus de tête, il y a trois niveaux hiérarchiques entre le grand patron là-haut et puis les gars en bas. Puis ça change, et puis vous partez dans une autre amibe. Donc la forme de réalisation du travail n'a plus du tout besoin d'y hiérarchiser en un lieu. Vous pouvez avoir une forme de travail qui est organisée comme un gros microbe, quoi.
Oui, c'est vrai.
Et il faut aller vers ça le plus vite possible.
Oui,
et par contre, l'État continue à être organisé comme ça, ce qui est une imbécilité.
Oui, effectivement. C'est-à-dire que
il faut d'abord réformer l'État pour lui redonner une forme d'amibe.
Voilà, on a discuté de la situation du Japon. La situation du Japon est critiquable, enfin, elle est adaptée à un mode où effectivement la population est en train de décroître.
Ouais.
Aujourd'hui, nous, tout notre système de répartition sociale, nos systèmes d'organisation étatique, etc., n'est pas du tout adapté à une population qui s'apprête à décroître.
C'est-à-dire que si vous acceptez cette idée, ça veut dire que rien ne doit être fait au sommet qui peut être fait à la base par l'amibe. Le sommet n'a pas à s'occuper de ce qui se passe là-bas en bas.
Mm-hmm.
C'est que des volontaires qui travaillent, qui se connaissent. Donc ça veut dire que la forme d'organisation choisie par l'Europe aujourd'hui, qui est une espèce de sommet supplémentaire d'une pyramide des pyramides, c'est complètement contre-productif.
Ouais. Et puis,
c'est exactement le contraire de ce qu'il faudrait.
Et puis il y a aussi quelque chose, évidemment un thème qui est indissociable de cette question de la démographie, c'est l'immigration. Parce que la question se pose, j'en ai parlé au tout début de l'émission en introduction, la démographie africaine va continuer de croître pendant un bon moment. L'Afrique est absolument immense, mais va-t-elle en partie se déverser sur le reste du monde?
C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce que disait Sauvy, Sauvy, qui est un homme que j'aime beaucoup, qui était un grand penseur. Lui, il avait son dernier livre, c'était... je sais plus si ça s'appelait La Peste Blanche ou, il c'était donc il y a pas loin de 40 ans. Dans les années 80, il avait écrit un livre pour expliquer qu'on était 500 millions en 1945 en Europe et 500 millions en Afrique. Et qu'en l'an 2020, on serait 400 millions en Europe et qu'il y en aurait, je sais plus combien, 2 ou 3 milliards en Afrique. Donc il dit, c'est pas possible. Ils vont venir chez nous. Donc il expliquait qu'il fallait absolument tout faire pour, foutre des centrales nucléaires là-bas, qu'ils aient de l'énergie pas chère, qu'ils y restent. Est-ce que je veux dire, il y avait tout un truc. Ouais. On n'a rien fait du tout. Ou en tout cas, qu'il fallait monter des structures pour les accueillir, les former, etc., les prendre. Rien du tout. On n'a rien fait de tout ça. Donc aujourd'hui, on a ce qu'on craignait, c'est-à-dire l'arrivée d'une population qui n'est pas formée à ce monde des amibes, en quelque sorte, qui pourrait peut-être travailler dans une société pyramidale, mais encore, c'est pas sûr. Et on sait pas, et on sait pas quoi en foutre. Je lisais un article aujourd'hui, ça devait être dans Causeur d'ailleurs, qui expliquait que, les populations immigrées aujourd'hui coûtaient à peu près 1,5 ou 2% du PIB à la nation. C'est beaucoup.
Oui, c'est sûr.
Et qu'il y avait chez les jeunes Algériens, par exemple d'origine algérienne en France, il y en avait, le taux de chômage était 2 fois plus élevé que chez les gens du même âge en France.
Oui, et il y a un autre phénomène d'ailleurs qui est du coup très inquiétant, c'est que chez ces générations d'Algériens, en fait, on voit que les premières générations, il y en a pas mal qui sont au chômage, mais c'est pas non plus hallucinant.
Ils travaillent beaucoup,
oui. La deuxième génération, on commence à être sur plutôt du entre 15 et 20% de chômage, et les troisième générations, on est sur quasiment 40% de chômage. Donc c'est-à-dire que en fait, non seulement évidemment, du coup, la population globale de personnes algériennes ou d'origine algérienne est supérieure, au chômage, est supérieure à la population française au chômage. Mais en plus de ça, plus les générations avancent et plus ils sont au chômage. Donc, et plus ils pèsent justement sur le reste de la société. C'est sûr, c'est pas possible parce que sinon, qu'est-ce que ce sera pour la quatrième génération qui commence déjà à émerger? Est-ce qu'on va être à 60% de chômage? Ça, c'est sûr.
Mais nous,
on
peut pas payer les allocations au chômage.
Oui.
Donc, voilà. Bon, ben voilà, donc, cette question de la démographie, c'est une question extraordinairement importante. Et vous savez, on dit toujours qu'un homme politique, c'est celui qui pense à la prochaine élection, un homme d'État, c'est celui qui pense à la prochaine génération. Et je crois qu'on manque cruellement d'hommes d'État en ce moment.
Ah oui, complètement. Complètement.
Penser à la prochaine génération, ça me paraît... ce qu'il faut faire aujourd'hui, quoi.
Oui.
Et on l'a vu dans le domaine de l'énergie, ils n'ont rien fait. Dans le domaine de l'immigration, ils n'ont rien fait. Mais par contre, on parle tout le temps des prochaines élections.
Ouais. Ah oui, c'est sûr. Même moi, c'est dire quand même. J'ai que 23 ans. Je ne me pose pas tellement la question de quelle sera la situation de mon pays dans 5 ans. Je me pose vraiment la question de quelle sera la situation de mon pays dans 20 ans.
Dans 20 ans, et vous risquez d'avoir des enfants, d'avoir de les orienter dans la vie et tout ça. Et c'est pas facile. Hein.
Ouais.
C'est pas facile. Donc, il faudrait qu'il y ait un grand débat de société sur justement sur l'immigration, sur la façon dont on va organiser le travail.
Ouais.
Et tout ça, ça veut dire qu'il faut probablement abolir les 2/3 de notre droit du travail qui était adapté à une société hiérarchique. J'avais vu qu'il y a des lois qui avaient été passées pour interdire aux femmes, par exemple, de travailler avec des marteaux-piqueurs. Mais j'en ai pas vu beaucoup des femmes qui travaillent enceintes. C'était les femmes enceintes avec des marteaux-piqueurs, elles n'avaient pas le droit de travailler. Quel est le corneau qui va passer une législation pour interdire un truc dont tout le monde sait qu'elle va pas le faire?
Il y a aucune femme enceinte qui travaille avec un marteau-piqueur.
Une
photo, mais donc, vraiment là,
il y a peut-être quelques ruches qui travaillent avec des marteaux-piqueurs, mais je suis même pas sûr.
Je suis pas sûr.
Donc le but, c'est quand même de sevrer le droit du travail de toutes les femmes qui doivent travailler avec qui peuvent pas travailler avec un marteau-piqueur.
Oui.
Il y a une cinglée qui veut, ben, qu'elle le fasse, mon Dieu.
Oui, s'il y en a une qui se dit, moi, il n'y a pas de problème, peut-être qu'elle ne mérite pas d'être enceinte, je sais pas. Enfin, ou alors peut-être qu'elle est sacrément solide et que derrière, je ne veux pas savoir ce qui va en sortir. Parce que...
Voilà, ça sera un beau deuxième ligne de rugby, c'est sûr.
Ouais, ça, c'est possible.
Voilà. Donc, c'est vraiment un débat de société. Vous voyez, ça, c'est un sujet qui me passionne. Parce que... Mais la démographie, c'est l'histoire, quoi.
Ouais. Ah oui, c'est sûr. Bah, c'est peut-être la manière la plus lisible de prédire ce qui va se passer.
L'enfant qui n'est pas né aujourd'hui, je peux vous annoncer quelque chose. Il sera pas là dans 30 ans. Il sera pas là dans 60 ans. Un enfant qui n'est pas né aujourd'hui, il sera jamais là. Donc, si vous voulez, c'est à peu près la seule chose sur laquelle on peut tirer des certitudes.
Ouais.
C'est-à-dire que l'évolution démographique, compte tenu de ce que c'est aujourd'hui, maintenant, si les femmes passent de 0, de 1, où elles étaient en Corée, à 0,5, à ce moment-là, on en aura encore moins que prévu. Ça, c'est, on s'y attend pas.
Oui.
Mais, faire des prévisions sur les femmes ayant un enfant.
Oui.
Ça, je peux faire des prévisions certaines.
Oui.
Mais si elles tombent à 0,5, j'aurais pas raison, mais ça, je le sais pas aujourd'hui.
Oui, c'est pour ça, bien sûr, au début, je parlais des estimations. Les estimations, elles sont pas du tout sûres. Et d'ailleurs, les estimations d'aujourd'hui ne sont pas celles qui étaient...
Non, parce que depuis que ça a été fait il y a 10 ou 20 ans, on était à 1,6 enfants par femme et on est tombé à 1,2. Mmh. À la stupéfaction des démographes. Et puis on est en train de tomber à 0,9. Donc, ce phénomène ne s'inverse pas pour l'instant.
Non.
Il s'accroît.
Il s'accroît, oui, tout à fait. Et plus vite il s'accroît, plus vite il y aura la décroissance.
Plus vite il y aura la décroissance. Donc il faut quand même y réfléchir.
C'est sûr. Et ça nécessite forcément, surtout pour nos sociétés à nous, peut-être particulièrement encore plus en France, un changement global de système. Et je pense pas que la classe politique dirigeante aujourd'hui
Ça sera par la base.
Ça soit prête à le faire.
Donc, ça sera par la base.
Voilà. C'était, à mon avis, une discussion importante parce que c'est peut-être en tout cas, un des phénomènes, si ce n'est le phénomène le plus important de ce siècle.
Absolument.
Que ce soit au niveau mondial, d'ailleurs, à toutes les échelles, que ce soit au niveau mondial, au niveau de la sphère européenne ou au niveau national en France, c'est vraiment une question absolument fondamentale qu'on ne peut absolument pas éviter dans l'estimation de tout ce qu'on veut faire en termes de politique publique, dans la répartition des richesses, dans les cotisations.
Et tous les crétins qui vous disent qu'il y en aura pas assez pour tout le monde, je peux leur dire quelque chose, c'est qu'il y en aura trop pour tout le monde.
Ah oui, bah d'ici quelques années, oui, il y en aura beaucoup trop pour tout le monde.
On a beaucoup trop pour tout le monde.
Jusque là, enfin, je veux dire, peut-être que si on était 100 milliards, on étoufferait un petit peu, on serait peut-être un peu serré, mais enfin, on est très très loin du compte.
Oh non, vous avez qu'à prendre le train en France et tout est vide.
Voilà, absolument tout est vide. On a cette fameuse diagonale du vide qui est immense et dans laquelle il y a presque personne. Effectivement, oui, il y a de la place un peu partout. Alors certes, c'est plus difficile d'imaginer sa carrière en banlieue de Saint-Étienne qu'à Paris, mais peut-être que dans 20 ans ou dans 30 ans, ce sera pas aussi évident. En tout cas, c'est peut-être une nécessité.
Un des trucs, c'est que quand je suis arrivé à Paris il y a pas longtemps, l'immobilier le plus cher à Paris, c'était l'avenue Foch. Aujourd'hui, c'est pas si cher que ça, ça a beaucoup baissé. Et l'immobilier le plus cher, c'est la butte Montmartre. Ce qui valait rien à l'époque.
Ouais.
Donc, l'immobilier, c'est pas toujours la solution.
Effectivement, oui. Alors, les prix de l'immobilier à Paris ont beaucoup évolué. Le 16e, c'est plus ce que c'était, par exemple, comparé aux autres quartiers. Le 16e est globalement stable. Alors qu'effectivement, les prix de l'immobilier, par exemple, dans le centre de Paris, dans le 6e, dans le 5e, effectivement,
du côté de
Montmartre, où effectivement, c'est plus des quartiers de bobos, plus quartiers étudiants ou d'adolescents, justement, comme j'en parlais tout à l'heure. Donc effectivement, il n'y a pas beaucoup d'enfants, il n'y a pas énormément d'écoles dans ces quartiers-là d'ailleurs. C'est plus pour aller à la librairie, pour aller au jardin du Luxembourg, pour ce genre d'activité quoi, pour aller dans des bars aussi. C'est moins pour mettre ses enfants à l'école. Oui, non, mais c'est sympa.
C'est très bien. On ne dira jamais assez. Les cafés, c'est quand même l'endroit où toutes les révolutions ont commencé en France. Donc on ne dira pas mal des cafés.
Ah non, je dis absolument aucun mal des cafés. J'adore les cafés. aucun mal à ça. Enfin voilà, du coup je voulais discuter de cette question-là parce que elle est ultra importante, essentielle. Elle est absolument essentielle. Donc voilà, on en a dit un certain nombre de choses, peut-être qu'il restait encore des choses à dire. Peut-être qu'on en reparlera d'ailleurs plus tard sur cette chaîne. Enfin pour l'instant, c'est tout ce que nous voulions dire aujourd'hui.
Ben merci beaucoup.
Et donc je vous remercie bien sûr pour votre attention et puis je vous dis comme d'habitude
sur je ne sais quoi.
Voilà, qu'on est partout.
Il faut mettre un pouce ou des doigts.
Voilà, il faut mettre un pouce, il faut mettre un commentaire, il faut vous abonner à la chaîne, ça c'est une évidence. Vous pouvez écouter ces émissions.
On est à 320 000.
On est à 320 000, ouais, ça a pas mal cru depuis les 300 000, on a eu davantage de
C'est très bien, mais je sais pas pourquoi, mais
c'est très bien. C'est un indicateur quand même en quelque sorte de performance et de du nombre global de gens qu'on a touché depuis la création de la chaîne. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive quand même à toucher pas mal de nouvelles personnes. Ouais. C'est une très bonne chose et que c'est pas toujours les mêmes qui regardent nos vidéos. Donc je pense que c'est bien. Ces émissions elles sont disponibles en format podcast sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Music, sur Apple Podcast.
On fait assez peu de musique.
On fait assez peu de musique, oui.
On va s'y mettre d'ailleurs.
C'est pas ma spécialité. Je peux toujours essayer, mais je serai pas convaincu du résultat et je pense que vous non plus. L'Institut des Libertés existe sur Twitter, enfin sur X, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et puis, sur ce, à la semaine prochaine pour un nouveau Délit d'Opinion.
Merci beaucoup.